Bonsoir à tous et bienvenue dans Rue des Écoles, le magazine de l'éducation de France Culture. En fin d'émission, nous parlerons du sommeil, un enjeu éducatif, oui, et même politique, avec un médecin. Et puis le dossier de Rue des Écoles, les outils numériques peuvent-ils aider les élèves à progresser, à combattre les inégalités scolaires ou au contraire les favorisent-ils ? Je salue tout de suite les invités présents avec moi dans ce studio. Eunice Mongado, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice déléguée de l'AFEV, AFEV pour
Association de la Fondation étudiante pour la ville.
Anne Cordier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Rouen. Vous avez publié un ouvrage, Grandir connecté. On va parler avec vous du numérique en duplex avec nous, Karine Movilly, co-auteure du livre Le désastre de l'école numérique. On comprend que vous n'allez pas être tout à fait d'accord. Et puis, l'actualité de l'éducation avec Marie-Caroline Missire, bien sûr, directrice de la rédaction de l'étudiant, bien sûr, partenaire, bien sûr, de Rue des Écoles. Bonjour.
Bien sûr. Bonjour, Louise. Je vais vous conter aujourd'hui la bravade de Thierry Mandon, le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur sur la sélection, et puis l'opération séduction de Marine Le Pen envers les enseignants.
Voilà, on commence avec ces actualités, bien tout de suite.
La cour où nous nous trouvons actuellement voit passer tous les jours quelques 10 à 15 000 étudiants. Et cette cour bénéficie d'un privilège unique en France, qui est celui de l'université. Aucune force publique ne peut y pénétrer, sauf à la demande du recteur ou des deux doyens, qui sont les seules autorités reconnues ici. Survivance médiévale aussi, peut-être. Le problème qui se pose aujourd'hui à l'université, à la Sorbonne, est un problème de locaux compte tenu des effectifs.
Une archive de 1962 qu'on doit à l'ORTF, évidemment, mise en abîme du Moyen-Âge à 1962. Il n'y a qu'un pas pour sauter à cette rentrée 2016, Marie-Caroline Missire.
Et oui, rentrée avec 40 000 étudiants en plus dans les amphis. 180 000 étudiants de plus qu'il y a 8 ans, soit l'équivalent de 10 universités. Des chiffres vertigineux qui donnent le ton de cette rentrée et qui marquent plus que jamais, il faut quand même le dire, le succès de la fac auprès des étudiants. Oui, soulignons-le, cette forte démocratisation de l'enseignement supérieur est au global une bonne nouvelle.
Mais
car il y a un mais, combien restera-t-il de ces 40 000 étudiants au niveau master? Combien résisteront dans ces amphis saturés, les obligeant à suivre leurs cours assis par terre ou dans des escaliers? Combien de ces étudiants ont réellement le niveau de suivre le parcours très exigeant de l'université? Certes, l'université est ouverte à tous, mais à quel prix?
Les groupes dits de TD, travaux dirigés, vont de 80 à 90 étudiants et cela relève plutôt d'un public d'amphithéâtre que d'un cours de travaux dirigés. Découler un bon groupe de travaux dirigés, c'est entre 30 et 40 étudiants au grand maximum. Il y a certains jours, effectivement, où nos bâtiments ont l'air d'être complètement saturés de cours parce que vous avez plusieurs offres de formation très variées, scientifiques, psycho, sociales, littéraires. Et il y a beaucoup d'étudiants.
Reportage diffusé sur France Inter mardi matin, on le doit à l'ami Sonia Bourane.
Et c'est des conditions difficiles. Je crois qu'il faut se poser cette question alors que le débat autour de la sélection à l'entrée en master est un des marqueurs forts de cette campagne électorale balbutiante. Après plusieurs décisions de justice, je le rappelle, condamnant les universités qui n'avaient pas accueilli des étudiants en master, l'État a finalement pris en mai un décret autorisant les universités à pratiquer la sélection dans 42% des formations, très exactement, entre la première année et la deuxième année de master. Et puis bam, voilà que dans une interview aux Parisiens cette semaine, le secrétaire d'État Thierry Mandon a bravé un des tabous de son camp politique en assurant que la sélection n'était pas un gros mot.
Bam.
Bam, et de quoi faire défaillir l'UNEF, l'un des principaux syndicats étudiants, farouchement opposé à toute forme de sélection. De quoi aussi réjouir la conférence des présidents d'université qui souhaite que la loi reconnaisse enfin pleinement la sélection en master.
Et là, il y a encore un mais.
Absolument, la bravade de Thierry Mandon, dont je vous parlais tout à l'heure, n'aura duré qu'un temps. Quelques heures après son interview aux Parisiens, il n'est plus vraiment question de sélection. Recadrage sévère de la ministre devant les journalistes. Je la cite. « Je veux croire que ces propos ont été truqués et qu'il aura l'occasion de les repréciser. » La ministre Najat Vallaud-Belkacem préfère parler de recrutement des étudiants plutôt que de sélection. C'est donc dans ce contexte idéologiquement très tendu entre les pros et les anti-sélections que la ministre a finalement annoncé une concertation sur le sujet afin d'organiser le recrutement, le flux des étudiants après la licence. Une façon très habile de traiter le sujet de la sélection sans en prononcer le nom.
Conclusion.
Et ce qui frappe ici, c'est finalement la grande hypocrisie de ce système de l'enseignement supérieur français. D'un côté, des grandes écoles très sélectives et de l'autre, l'université censée accueillir le gros des étudiants mais qui pratique en réalité une sélection officieuse très sévère à l'issue de la première année. Un système hypocrite donc, dans lequel le bac ne joue également plus son rôle de validation de l'aptitude à poursuivre des études supérieures et qui entraîne en fait des milliers de jeunes étudiants dans le mur. Je crois qu'il est temps de régler ce problème.
De la démocratisation hypocrite, si on vous suit bien. Qui dit rentrée universitaire dit aussi rentrée budgétaire, Marie-Caroline.
Oui, et puisqu'il est de bon ton d'afficher son bilan ces temps-ci, le ministère communique sur la réalisation de l'objectif présidentiel des fameux 60 000 postes avec un budget 2017 qui affiche 12 842 créations de postes, c'est très exactement, dont quelques 2 000 assistants d'éducation, c'est-à-dire des non-titulaires, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas devant les élèves, quand même dans le lot, mais bon, on ne va pas chipoter, on atteint bien l'objectif à coût de montage budgétaire.
Et puis une surprise cette semaine, une surprise de 3 à 18 ans.
La ministre souhaite revoir la scolarité obligatoire, donc en l'étendant, vous l'avez dit, de 3 à 18 ans. Il ne s'agit pas d'une nouvelle réforme pour la fin du quinquennat, précise-t-elle, mais il s'agit de donner du souffle à l'école pour les années à venir. Bon, l'idée est surtout d'obliger l'État à s'occuper des 110 000 élèves décrocheurs, c'est une bonne chose. Mais un point que la ministre n'a pas encore vu et que je lui souffle, c'est l'impact sur le financement de l'enseignement privé de cette mesure. L'État finance en effet l'enseignement privé sur la scolarité obligatoire, c'est-à-dire à partir de 6 ans. L'étendre reviendrait donc mécaniquement à donner plus d'argent à l'enseignement privé sous contrat. Pas sûr que ça fasse plaisir aux laïcards en ces temps de campagne présidentielle.
Bien vu. Du côté de la politique, Marie-Caroline, le Front National drague les enseignants.
Marine Le Pen tenait jeudi, et c'est une première, sa convention sur l'éducation. L'école est en fait un axe stratégique dans la campagne de Marine Le Pen au vu de la progression du vote FN chez les enseignants de 3,8% en 2012 à 9,4% en 2015. C'est spectaculaire. Les propositions avancées témoignent d'un mélange entre différents courants de la pensée de droite sur l'école. Il y a de l'antipédagogisme, il y a du retour aux fondamentaux, il y a de la suppression du collège unique, il y a de l'uniforme, apprentissage dès la quatrième, interdiction des signes religieux à l'université et puis des mesures vraiment catégorielles telles que l'augmentation des profs, les bras grands ouverts donc en direction de tous les déçus des politiques éducatives de droite comme de gauche. Et puis un livre, vous voulez nous parler d'un livre, Louis, celui de Carole Barjon.
Oui, parce qu'il fait beaucoup de bruit, j'ai pas eu le temps de l'évoquer la semaine dernière, mais l'ouvrage fait grand bruit, son titre « Ils ont tué l'école », rien de moins. La journaliste politique, hein, et non pas journaliste spécialisée dans l'éducation, fustige les errances des politiques de l'éducation en France, quand elles sont orchestrées, surtout selon elle, dans les bureaux des ministères et des rectorats, par des technocrates un petit peu en roue libre, selon elle aussi. Alors, de quoi parle précisément le livre de la priorité aux primaires toujours affichée mais éternellement reléguée à l'arrière-plan, des débats sur les méthodes de lecture, des réformes pédagogiques dénoncées comme absurdes et surtout de la responsabilité de certains individus.
Des noms, Louise ?
Bah des noms, moi j'ai pas tellement envie d'en donner, je suis pas tellement dans l'invective, c'est pas trop le ton de l'émission. On peut donner les noms que Carole Barjon cite en exemple, Natacha Polony, Laurent Bigorgne, Xavier Bellamy ou Sandrine Garcia, loin. Ils ont tous été d'ailleurs aussi invités ici. La démonstration de la journaliste est partisane, brutale. Elle s'acharne parfois davantage sur ces individus que sur le système un petit peu complexe et parfois effrayant de l'éducation nationale. On peut dire qu'elle ne souligne pas très très bien ce qu'il faudrait faire, n'étaye pas l'intérêt des méthodes qu'elle semble défendre, plutôt traditionnelles en général. On reste clairement dans l'opinion. L'opinion en éducation, j'en ai une. Vous en avez une, Marie-Caroline ?
Ah oui, toujours.
Oui, oui, on en a toujours une. Bon, deux questions tout de même me semblent pertinentes et nous les partageons souvent ici. Celle de la traçabilité des réformes, qui les conçoit, comment sont-elles appliquées, quelles idées les inspirent, quels en sont les effets aussi. Et c'est vrai qu'il faut quand même en parler. Et puis celle de la véritable volonté politique. J'ai parlé de la priorité à la primaire. On voit que sur certains grandes décisions affichées, il n'y a pas beaucoup de suivi. On reviendra évidemment sur ces débats ici ou dans d'autres émissions de France Culture. Et puis, pour être plus léger, une autre petite surprise cette semaine.
Come on over here, you're not quite done yet. That was an amazing performance. Rihanna, everybody. Love that record.
La star Rihanna a interpellé le président Hollande sur Twitter à quelques jours d'un grand concert caritatif pour l'éducation.
Oui, il s'agit de remplir les caisses d'un nouveau fonds, pour l'éducation, Education Cannot Wait, emmené par l'ancien premier ministre anglais, Gordon Brown. Ce fonds recueille de l'argent public des États et organisations internationales et de l'argent privé sur le modèle des fonds spéciaux qui avaient été créés, par exemple, pour lutter contre le sida. On a beaucoup parlé de Rihanna et d'Hollande, mais pas beaucoup du fonds. C'est peut-être ça qui est important.
Sur son site Education Cannot Wait, il est rappelé que moins de 2% de l'aide humanitaire parvient à l'éducation et que l'éducation de 75 millions d'enfants et de jeunes est interrompue par des conflits et par des crises.
Et je nous renvoie au podcast de notre émission du 15 mai dernier sur la géopolitique de l'éducation. Mais on peut aussi écouter Rihanna.
You miss me, just come get me. Don't know, I just know I want to. Don't know, I just know I want you. I'd rather be breaking things, 'cause we can't see. We're too busy kissing.
20 000 ordinateurs de plus dans les écoles avant la prochaine rentrée. Il y en a actuellement 40 000. C'est le plan lancé cet après-midi par le Premier ministre Laurent Fabius. Un plan de 2 milliards de francs pour initier petits et grands au mystère de l'ordinateur. Reste à savoir si l'intendance suivra.
C'était le 25 janvier 1985 au XXe siècle dans Soir 3. Depuis, les plans se sont suivis et la mise en place de l'informatique reste encore discutée à l'école. L'informatique et du numérique, évidemment, au XXIe siècle. Aujourd'hui, il s'agit d'enseigner le code, par exemple, mais aussi, si on est ambitieux, les humanités numériques. On va revenir sur ce dont il s'agit, évoluer sur Internet et les réseaux et pourquoi pas en tirer profit intellectuellement. Pourquoi faudrait-il enseigner des compétences numériques et d'ailleurs pas seulement à l'école? Comment aider les élèves qui sont un peu perdus? Alors, nous, on a décidé de faire ce sujet dans l'émission parce que vous, à la Fève, Eunice Mangado, vous avez organisé une journée du refus contre l'échec scolaire, du refus de l'échec scolaire. Ça, c'est chaque année, mais cette année, le thème était le numérique. Quel rapport faites-vous entre la lutte contre l'échec scolaire et le numérique?
Alors peut-être une petite précision, c'est que donc la FEF, c'est un réseau d'étudiants qui mènent des actions de solidarité auprès des publics en fragilité sociale et en difficulté scolaire notamment. Et donc les étudiants de la FEF, ils vont au domicile des enfants qu'ils accompagnent. Et nous, ça fait quelques temps que on avait remarqué deux choses que nous faisaient remonter les étudiants. D'une part, ce qu'ils disaient, c'est que la question de l'équipement aujourd'hui, en tout cas la fracture de l'équipement, ne se posait plus comme elle se posait il y a quelques années, que en gros les enfants qu'ils accompagnaient étaient plutôt équipés et plutôt connectés. Ça, c'est une première chose. Et puis surtout, en fait, ils nous ont pas attendus, mais voilà, depuis quelques années, on voit bien que dans leur pratique informelle d'accompagnement éducatif, de toute façon, ils nous ont pas attendus pour ramener eux-mêmes leurs tablettes, leurs ordinateurs, utiliser leurs smartphones, communiquer sur des réseaux sociaux avec les enfants qu'ils accompagnaient, etc. Voilà. Donc, en fait, on a été obligé de faire cette journée parce qu'on a été pris de court par les usages. Et puis, l'autre chose, on n'est pas du tout spécialistes, nous, du numérique à la Fève. En revanche, le cœur de métier, c'est la question de la lutte contre les inégalités. Donc, à partir du moment où on comprend, on considère que aujourd'hui, la non-maîtrise du numérique, c'est un renoncement au pouvoir d'agir dans une société qui est d'ores et déjà numérisée, qui est numérique, eh bien, à partir de là, ben oui, c'est la mission de la Fève de travailler cette dimension, on va dire, entre guillemets, e-inclusion dans l'accompagnement global des enfants.
Maîtriser le numérique, c'est maîtriser son pouvoir d'agir, acquérir du pouvoir d'agir. J'aimerais qu'on prolonge un peu cette idée avec vous, Anne Cordier, qui avait travaillé sur les adolescents connectés, les adolescents et le numérique.
Oui, alors je crois qu'en fait, cette question du pouvoir d'agir, c'est d'abord une grande préoccupation qu'on a tous dans notre société, de permettre aussi à tous les individus, quelle que soit leur classe sociale, quel que soit leur genre aussi, d'accéder à une capacité à prendre des décisions, à agir dans le monde à la fois réel et virtuel, entre guillemets, parce qu'il y a une question aussi de l'engagement en politique numérique qui va se poser derrière tout ça, hein, ma capacité en tant qu'usager à comprendre les logiques économiques, sociales, de production de l'information, de diffusion de l'information, de gestion de mon identité. Tous les jeunes que j'ai pu rencontrer de 11 à peu près une vingtaine d'années aujourd'hui témoignent en fait de ce souci d'avoir finalement une maîtrise sur les outils qu'ils ont à leur disposition.
Mais alors pourquoi retombe-t-on sur l'école et l'éducation? Il y a une fracture, mais qui dépend après tout des compétences de base, la maîtrise de la lecture, de l'écriture, du français, pour le dire très simplement. Il faut ajouter à cela une pratique numérique spécifique, scolaire, qu'on apprendrait avec des éducateurs et des enseignants.
Est-ce que je peux peut-être
Eunice Morgado.
Juste, alors, non pas répondre, mais au moins vous donner les quelques éléments clés, puis peut-être après céder la parole à Anne, de l'enquête qu'on a menée justement pour la journée, avec un cabinet qui s'appelle Trajectoire Réflexe. En gros, ce que nous dit l'enquête, c'est que bon, ça confirme la thèse qu'on avait nous, qui était qu'effectivement aujourd'hui, la question de l'équipement n'est plus la question où va se nicher la fracture, même s'il y a quand même 13% en fait des enfants qui n'ont pas d'ordinateur à la maison, donc c'est pas complètement rien. En gros, que les enfants, ils passent énormément de temps sur les écrans et que du coup se pose aussi, donc quelque part ça répond à votre intervention, à votre question, la question de l'accompagnement des parents, c'est-à-dire en fait on voit qu'il y a la limite du temps mais aussi l'accompagnement à pouvoir aussi, il y a par exemple des collégiens, c'est des très jeunes collégiens qui étaient interrogés, ils ont entre 11 et 13 ans, il y en a un tiers d'entre eux qui sont déjà tombés sur des images choquantes en fait sur internet et il y en a 20% de ces un tiers qui n'en a parlé à personne. Donc on voit bien qu'en fait, la question du numérique aujourd'hui, quand on reposait la question de l'école ou des autres acteurs numériques, elle se diffuse sur tous les acteurs de la communauté éducative. Et puis moi, il y a un autre chiffre qui m'interpelle, c'est qu'on a posé la question aux collégiens, où est-ce que tu as appris, quelque part, le numérique? Et en premier lieu, ils disent tout seul, après, avec la famille, et très loin derrière l'école. À partir du moment où on entend ça, c'est-à-dire qu'avant tout, le capital numérique, quelque part, c'est finalement le prolongement du capital social, familial, eh ben, ça pose la question des inégalités. Et oui, l'école a un rôle à jouer.
Anne Cordier, donc sur ce rôle de l'école.
Eh ben oui, sur ce rôle de l'école, je vais, si vous voulez bien, vous donner trois éléments de réponse, notamment pour favoriser ce pouvoir d'agir. Le premier, finalement, c'est que, comme l'a dit Eunice, et comme le disent tous les adolescents que j'ai pu rencontrer, effectivement, on est sur des pratiques informelles. On est sur de l'instinct, quelque part. Il y a quelque chose d'instinctif dans le rapport aussi au numérique. Et le rôle de l'école, c'est de venir conscientiser les apprentissages qui sont liés à cette pratique numérique. Pourquoi j'utilise de telle manière cet outil? Comment je formule, par exemple, mes requêtes, etc. Cette conscientisation des apprentissages, la structuration en fait des apprentissages, c'est un élément clé. Le deuxième élément clé, il me semble, c'est que ces pratiques numériques, oui, elles nécessitent aussi, pour s'émanciper des cadres à la fois industriels, techniques, ou de l'héritage aussi social qui peut être pénalisant par moment, elles nécessitent en fait une culture de l'information et des médias qui soit enseignée, alors effectivement pas uniquement dans l'école, mais quand même principalement dans l'école, parce que l'école, c'est le lieu où tous vont passer. Ça me paraît essentiel, et avec des experts, des enseignants, vous avez des spécialistes dans l'école de l'éducation aux médias, enfin voilà, ça c'est très important. Et si vous me permettez, troisième élément, et ça c'est vraiment le lien avec aussi les inégalités, on sait que les enfants et les adolescents vont hériter de répertoires de pratiques en lien avec l'information et le numérique. Et il me semble vraiment que le rôle de l'école, c'est de diversifier les répertoires de pratiques pour que chacun puisse, en fonction des situations auxquelles il est confronté, adopter un répertoire qui soit adéquat.
Donc en gros, puisque tous les adolescents ont une vie numérique, l'école doit aider à ce que cette vie numérique puisse être profitable, puisse aussi investir le champ de la connaissance. Cela dit, tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Karine Mauvilly, bonjour.
Bonjour. Merci d'être avec nous depuis Bordeaux. Vous êtes journaliste. Vous avez également été enseignante et vous publiez Le désastre de l'école numérique. Désastre total. Alors, je vais citer quelques points qui m'ont semblé intéressants. Déjà, parce que ça coûte très cher en termes d'investissement. Il y a un coût aussi environnemental dont on ne parle jamais, mais qui est très intéressant et que vous décrivez bien dans l'ouvrage. Et puis aussi parce que vous ne voyez pas l'intérêt pédagogique du numérique dans l'éducation nationale, dans l'éducation tout court. Et pourtant, quand on entend, par exemple, Anne Cordier, on voit qu'il y a des fractures que l'école peut peut-être aider à réduire. Que répondez-vous à cet argument ?
Bien écoutez, je réponds que cette idée de l'inefficacité pédagogique du numérique, ce n'est pas moi qui l'ai. On la trouve par exemple dans un rapport de l'OCDE qui a analysé les derniers résultats de l'enquête PISA 2012 et qui les a croisés avec la numérisation des systèmes scolaires. Et dans ce rapport, donc qui date de 2015, on voit qu'il y a un rapport négatif entre l'utilisation des écrans à l'école et la bonne compréhension de ce qui est marqué sur les écrans. Autrement dit, plus on fréquente les écrans, moins on comprend ce qu'il y a écrit dessus. Donc c'est un résultat à prendre en compte. Et à partir de là, on a cherché un petit peu les études scientifiques qui permettaient d'expliquer ce manque d'efficacité. Donc, on s'est aperçu que, eh bien, par exemple, le numérique n'était pas ce qui permettait spécialement une pédagogie active. On s'est aperçu également que le numérique n'avait pas le monopole d'une pédagogie ludique, etc. Et concernant les inégalités, eh bien, aujourd'hui, la fracture numérique s'est inversée. D'ailleurs, on le voit hein, dans cette enquête de la FEV très intéressante. On s'aperçoit que les enfants de milieux assez défavorisés sont très connectés, très équipés. Donc aujourd'hui, effectivement, la fracture, elle n'est plus matérielle.
Mais Karine Mauvy, ici, le problème, c'est celui de l'accompagnement des adultes parentales ou celui des professeurs, puisqu'on sait que ben, il est inégal cet accompagnement, est-ce que l'école ne doit pas justement chercher à combler ces inégalités largement sociales, ces inégalités d'éducation à la maison ?
Alors, le problème, c'est qu'on a tendance à confondre la technique et la technologie. La technique qui est utile pour comprendre n'importe quel support écrit, qu'il soit sur écran ou sur papier, c'est la lecture, c'est la compréhension profonde de ce que l'on lit. Et on peut lire sur n'importe quelle technologie, hein, un écran, un manuel, un cahier. Donc aujourd'hui, vouloir étendre le numérique à l'école, c'est se tromper de combat, puisque les enfants, aujourd'hui, ont plutôt un déficit de capacité en grammaire, en orthographe, en calcul mental. Et ce sont bien ces aspects-là qui pourraient être pour eux un obstacle plus tard dans la vie adulte. Si vous maîtrisez très bien les écrans à 18 ans, mais que vous faites une lettre de motivation pleine de fautes d'orthographe, vous ne passerez même pas le cap de l'entretien de recrutement. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est bien d'apprendre aux élèves les fondamentaux, qui sont l'écriture, la lecture et le calcul, et non pas de remplacer ces heures d'apprentissage de fondamentaux par des gadgets que seraient le codage ou la façon de gérer un interface Internet.
Anne Cordier, des gadgets ?
Ben non, pas du tout. Pas des gadgets. Alors, par contre, des outils. Là, vraiment, on va insister sur ça. Des outils. Donc, effectivement, l'outil n'est pas ludique en soi. C'est l'intention et le scénario pédagogique que l'on va construire au moyen d'outils quels qu'ils soient qui vont pouvoir donner lieu à un apprentissage attractif, ludique, motivant, enfin si vous préférez employer ces termes-là. Mais je crois qu'il faut vraiment insister hein, sur le fait que on ne lit pas sur écran comme on lit par exemple sur imprimé, parce que quand on lit sur écran, il y a un dispositif technique qui vient en fait médier votre relation au texte. Très concrètement, hein, votre navigation, elle est tracée, bon ça on le sait, et on ne lit pas de la même manière. On va aussi avoir des capacités, la nécessité en fait, de pouvoir aussi voir des interactions, publier, comprendre les logiques qui sous-tendent la diffusion de ce texte. On n'est pas là sur l'ordre du gadget, et j'insiste hein, sur la dimension culture de l'information. Je n'ai pas parlé d'apprentissage purement technique.
Jean-Marc Monteil, vous êtes avec nous au téléphone. Alors, vous êtes chargé de mission dans l'éducation nationale sur le numérique. La mission en question, c'est IFRAN, c'est-à-dire des projets numériques pour l'éducation. On en sélectionne des projets. Quelles sont les caractéristiques d'un bon projet numérique pour l'éducation, tout simplement?
Alors, d'abord, je voudrais réagir à ce que j'ai entendu. Il y a une première chose qu'on est obligé de constater, c'est un fait, c'est qu'on est entré dans la société numérique et que l'école peut pas avoir à sa porte l'intrusion du numérique et puis rester sanctuarisée. Ça, c'est le premier élément. Ça signifie que l'école a une responsabilité vis-à-vis de l'éducation à la société numérique. On n'a jamais été placé dans notre histoire dans une situation où toutes les questions ont une réponse, sauf qu'on ne sait pas si la réponse est pertinente. Donc en face de cette obésité informationnelle à laquelle on est confronté, il est important de pouvoir apprendre à trier, hiérarchiser, organiser l'information. C'est là, évidemment, que le professeur est extrêmement important. Ça, c'est le premier point. C'est la culture face à la société numérique pour pouvoir, en effet, être relativement autonome dans un univers de plus en plus complexe et de plus en plus connecté. On peut s'en réjouir ou le déplorer, mais c'est un fait. Et donc, on a une responsabilité éducative en face de cet élément-là. Et puis, deuxièmement, alors j'ai entendu tout à l'heure des choses qui m'ont beaucoup amusé. J'ai entendu madame dire que le codage était un gadget. Alors, je pense qu'il faudra qu'elle le regarde avec le monde industriel, le monde des entreprises, le monde de l'informatique, si coder est un gadget. Il y a des apprentissages fondamentaux qui sont lire, écrire, compter. Et là-dessus, tout le monde est absolument d'accord. Et puis, il y aura demain, probablement, parmi les apprentissages fondamentaux, il y aura aussi coder. Je dis ça simplement en passant.
D'accord. Ensuite, maintenant, voilà, est-ce que vous pouvez juste répondre à la question? Parce que ça, c'est intéressant de savoir pour le public comment on sélectionne dans l'éducation nationale un bon projet numérique. Est-ce qu'on vous propose des projets numériques gadgets et pas intéressants? Est-ce que ça existe? Et puis aussi, je rajoute un élément, les sommes engagées, qu'est-ce que ça représente?
Oui, alors, sur les projets numériques, nous un appel d'offres qui s'appelle IFRAN, Formation, Recherche et Animation Numérique, qui associe à la fois le monde de l'éducation, le monde de la recherche au meilleur niveau international et le monde de la filière électronique, la filière informatique autour des start-up. Et nous avons créé des écosystèmes avec un appel d'offres qui visait à proposer un certain nombre de sujets, de pratiques et de recherches, justement pour arbitrer sur l'efficacité ou la non-efficacité d'un certain nombre de conditions et de situations d'apprentissage en relation avec le numérique. Parce que la question qui nous est posée, c'est ça qui est important, l'intrusion du numérique, il faut savoir comment on peut l'utiliser comme moyen pour rendre l'enseignement et l'apprentissage plus efficaces dans un certain nombre de domaines, et notamment pour voir si, en effet, avec l'outil numérique et les conditions optimales de son emploi, on est en mesure, en effet, notamment de réduire ou de favoriser la réussite scolaire ou de réduire l'échec scolaire. Alors, nous avons fait un choix qui est extrêmement simple. Nous avons fait un appel d'offres compétitif, c'est-à-dire que nous avons mis en compétition un certain nombre de projets scientifiques de très haut niveau. Nous avons arbitré leur qualité avec un jury également de très haut niveau qui associe l'éducation, la recherche et l'industrie du numérique. Et ces sujets ont pour ces sujets de recherche, ces projets de recherche qui s'étalent sur 4 ans, avec un financement dans le cadre du programme d'investissement d'avenir à hauteur de 20 millions. Nous venons d'arrêter 22 projets qui abordent des problèmes qui sont des problèmes de fond dont madame parlait, le calcul mental, l'apprentissage du calcul mental, pour regarder si on peut créer des conditions avec un certain nombre d'outils technologiques comme moyen d'accroître l'efficacité de l'enseignement et l'apprentissage et l'apprentissage des fondamentaux. Car si nous étions dans une situation où le potentiel de chacun s'exprimait au niveau maximal aujourd'hui, ben on n'aurait pratiquement pas d'échec scolaire. Or, il s'agit de savoir s'il y a des conditions avec le numérique qui sont susceptibles d'améliorer significativement un certain nombre de situations. Et nous allons l'arbitrer scientifiquement. Moi, je suis un scientifique, donc ce qui m'intéresse, c'est les faits, la soumission des idées à l'épreuve des faits, pas des opinions. Et donc, en effet, nous sommes dans une situation où dans 2 ou 3 ans, quand tous ces travaux auront été conduits, on aura des informations extrêmement précises sur un certain nombre d'outils et la possibilité de dire, attention, ça c'est une voie qui n'est pas utile, ça en revanche c'est une voie qui ouvre des perspectives, qui sont des perspectives positives. Il faut avoir une approche qui soit une approche objectivante, c'est-à-dire un peu scientifique. C'est pas l'opinion qui est importante, c'est la qualité de ce qu'on peut montrer à travers un certain nombre de résultats.
Karine Movili, vous êtes toujours là ?
Oui.
Oui. Sûr. Alors, Marie-Caroline Missire a une question pour vous.
Oui, bonjour. On vient d'écouter Jean-Marc Monteil. Bonjour. Et du coup, je me pose une question. Est-ce que, au regard de ce qui a été décrit sur l'ambition du projet IFRAN, c'est-à-dire de mesurer scientifiquement, avec des outils de recherche, l'impact sur les apprentissages des élèves du numérique, qui est conçu plus comme une entité en soi, mais comme vraiment un outil, un environnement de travail des enseignants, est-ce que vous auriez pas dû attendre les résultats de cette recherche pour décréter le désastre de l'école numérique, qui me paraît en effet être une opinion peu fondée scientifiquement, en tout cas à ce stade et au stade de nos connaissances.
D'accord. Alors écoutez, je pense qu'il faut peut-être bien lire le livre, parce qu'on n'arrête pas de s'appuyer sur des études scientifiques qui développent sans doute d'autres thèses que celles que vous pouvez consulter. Mais on a quand même beaucoup de recherches, en particulier aux États-Unis, où la recherche est plus dotée et qui s'intéresse donc beaucoup à cette question, autour des effets sur l'apprentissage. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas réduire la question du numérique à l'école à la question de son efficacité pédagogique. Parce que ça, c'est éluder tout un tas d'autres problèmes posés par les écrans dans la vie des enfants. Il y a tout de même beaucoup d'impact sanitaire des écrans, que ce soit sur la vision, hein, puisque les cas de myopie vont en augmentant. On a des études qui montrent un impact des LED sur la rétine, en particulier chez les moins de 10 ans. Il y a tout le problème des électrofréquences, donc des ondes électromagnétiques. De plus en plus d'études démontrent leur impact possible sur le cerveau des jeunes, qui n'ont pas la même constitution physique que les adultes et qui n'ont pas la même résistance. Et d'ailleurs, l'OMS a classé ces substances comme cancérogènes possibles au moment où l'école généralise le Wi-Fi dans les collèges. Donc on voit qu'au-delà de la question de l'efficacité pédagogique, il y a des impacts sanitaires qui ne sont pas secondaires, hein, et également des impacts écologiques. Puisqu'aujourd'hui, vous savez que l'éducation au développement durable est
c'est
au programme...
C'est très important à l'école.
Très important, qui traverse un petit peu toutes les disciplines. Et il y aurait une sorte d'ironie à aller étudier le développement durable sur des outils, les tablettes, qui sont, il faut bien le dire, des déchets en puissance, hein, puisqu'ils ne sont presque pas recyclables. Aujourd'hui, les déchets électroniques ne sont recyclés qu'à hauteur de 15%, et le reste part en décharge ou en incinération. Donc il y a là une forme d'incohérence éducative que l'on ne peut pas ignorer.
Sans parler de l'obsolescence programmée.
Vous écoutez Rue des Écoles sur France Culture par Louise Touret.
Soaking on.
Vous écoutez Rue des Écoles sur France Culture. Nous parlons du numérique dans l'éducation, culture dans laquelle nous évoluons tous aujourd'hui, tant nous utilisons ces outils qui font partie de notre vie. C'est pas virtuel pour le coup d'avoir une vie numérique. Anne Cordier, je vous vois hocher, opiner du chef. Cela dit, dans cette culture, il y a aussi les données, la surveillance. On voit que Pronote, par exemple, c'est un outil qui permet de suivre les élèves. Alors ça, c'est peut-être bien, mais il y a d'autres applications comme Classe Dojo où les parents peuvent savoir tous les jours si leurs enfants ont eu des bonnes ou des mauvaises notes, ce qu'ils ont fait. Il y a aussi une dimension flicage et c'est ça aussi la culture numérique. Ça n'inquiète pas les adolescents. Moi, ça m'inquiète. Et vous, Anne Cordier?
Alors là, justement, on va répondre sur deux plans. Moi, ça m'inquiète, comme adulte, mais aussi comme chercheur en sciences de l'info et de la com, puisque ce sont des grandes préoccupations en infocom, de travailler sur la vie algorithmique, comme on a pu l'appeler aussi. Mais les adolescents n'ont pas exactement le même regard, en réalité, sur ces éléments-là. Certains, en fait, insistent sur la conscience qu'ils ont de ce traçage et des recommandations. Et ils disent, c'est comme ça. Donc maintenant, ce qu'il faut, nous, c'est qu'on soit capable de détourner les systèmes tels qu'ils existent. On revient en réalité aussi à une culture, la culture aussi, la contre-culture finalement, de la naissance du web, qui était à l'origine une culture de l'émancipation d'un système, de croyance aussi dans une communauté.
Ça, c'est si on a un regard très optimiste. Mais c'est pas la majorité des adolescents qui sont comme ça, qui ont ce type d'idées et ce type de réflexion.
Bien sûr, mais c'est pour ça que l'école, là encore, et les éducateurs au sens large, mais vraiment, je vais insister vraiment là sur le rôle de l'école, toujours dans ma vision de l'école de la République, qui favorise l'égalité des chances pour tous. L'école, là, elle a un rôle essentiel. Les séances, moi, que j'observe, par exemple, de professeurs documentalistes qui développent une éducation aux médias et à l'information en collège et en lycée, sont des séances d'éveil à la culture informationnelle, à la prise de conscience, justement, des algorithmes, des logiques économiques aussi qui sous-tendent les réseaux sociaux, la diffusion de son image, par exemple, sur les réseaux. On peut pas reprocher, finalement, à ces jeunes, entre guillemets, de pas avoir un comportement en ligne qui serait correct et ne pas, en même temps, nous, accompagner et pallier les éventuels manquements.
Karine Mauvy, que répondez-vous à cet argument de voilà, il faut éveiller les consciences face aussi aux dangers du numérique que d'ailleurs vous dénoncez.
Alors, j'estime que sans doute le numérique à l'école est une question d'âge. J'entendais ce monsieur tout à l'heure ironiser un petit peu sur le codage qui serait ou pas un gadget. Ça ne l'est sans doute pas. D'accord. C'est sans doute la nouvelle grammaire d'un certain nombre d'activités économiques aujourd'hui, certes, mais pourquoi l'introduire dès le primaire ou le collège ? On pourrait imaginer l'introduction d'une vraie matière numérique au lycée, qui serait complète, qui étudierait tout le système technique du numérique, avec ses infrastructures lourdes, qui irait ouvrir des ordinateurs, qui effectivement ferait du codage. Mais à côté de ça, il y a peut-être moyen de libérer le reste de la scolarité obligatoire des écrans et de réserver cette matière numérique aux lycéens.
Aux lycéens qui ont l'âge d'y réfléchir, est-ce qu'il faut commencer plus tôt ?
Et qui ne vont pas tous au lycée ? Nos jeunes ne vont pas tous au lycée ? Donc nous bénéficierons pas de ces accompagnements-là ?
Ils vont pas tous au lycée général, mais quand je dis le lycée, je pense aussi aux apprentis, au CFA et au lycée technologique.
C'est toujours bien de le préciser. Jean-Marc Monteil.
Oui, d'abord je voudrais dire que le numérique n'est pas réductible aux écrans. Cette idée selon laquelle le numérique est réductible à la tablette est quand même assez extraordinaire. Évidemment, il y a des tablettes dans l'univers numérique, mais on peut penser aussi que le numérique, c'est quelque chose qui permet la simulation, c'est quelque chose qui offre une possibilité de présenter l'information, la résolution de problèmes avec des contextes qui sont des contextes variés. Or, nous savons aujourd'hui que un certain nombre d'obstacles au traitement de l'information pour un certain nombre d'enfants ou un certain nombre d'adultes, pour un certain nombre d'entre nous, c'est un obstacle de présentation. Il y a des contextes avec lesquels nous sommes plus ou moins familiers. Et lorsque nous avons un contexte qui ne nous est pas familier, c'est un problème à traiter pour pouvoir atteindre l'information dans laquelle il est présenté. Avec le numérique, et pas seulement les tablettes, évidemment, avec le numérique, on a la possibilité de pluricontextualiser la présentation de l'information. Donc on augmente la probabilité que cette information ait du sens, puisse être comprise et traitée par un plus grand nombre de gens. Ça, c'est important. Surtout, il ne faut pas laisser croire à ceux qui nous écoutent que le numérique égale la tablette. Évidemment que les tablettes vont être obsolètes très rapidement.
Oui, mais alors, ceux qui nous écoutent, et puis moi, ce qu'on a pu voir, c'est que des grands plans numériques étaient orchestrés avec beaucoup d'achats de matériel, y compris de tablettes qui ont remplacé des ordinateurs, que tout ça coûte très cher. On ne revient pas sur le coût écologique, mais finalement aussi avec peu de conception pédagogique. Alors, vous avez en charge quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la grande réflexion, mais cela n'a pas toujours été le cas. On l'a vu aussi, Jean-Marc Monteil.
Oui, mais moi je suis absolument d'accord avec ça, ce qui s'est passé en 1984, évidemment. Simplement aujourd'hui, il y a quelque chose d'extrêmement nouveau, on est en train de changer de paradigme économique, de paradigme sociétal, on est rentré dans le numérique avec ce que ça implique, on est d'accord ou pas, mais on y est. Donc il faut armer les uns et les autres pour pouvoir se mouvoir dans cet univers. Et tout à l'heure, j'entendais très justement dire qu'il fallait équiper nos enfants pour que, en effet, ils ne deviennent pas des instruments d'un dispositif qui a une finalité strictement commerciale et instrumentale. Aujourd'hui, avec le big data, on peut nous tracer, évidemment. Donc il faut bien équiper les gens pour qu'ils soient autonomes.
Anne Cordier, Karine Movilly, vous disiez que voilà, finalement, le numérique, ça pouvait intervenir trop tôt, assez mal. Et je crois que son avis est quand même assez partagé aujourd'hui dans la société. Il y a une méfiance aussi parce que le numérique est chronophage, parce que c'est très difficile de décrocher un enfant ou un adolescent de son écran. Donc il y a une méfiance, elle n'est peut-être pas illégitime, d'une partie de la société envers ces outils-là. Et c'est vrai que l'école ne vient pas les rassurer. Qu'est-ce que vous répondez, vous qui travaillez avec des adolescents sur ces sujets-là?
Il y a toujours eu autour de tout objet technique une part de fantasme. Et finalement, il me semble que là, on va dans le sens aussi des fantasmes autour des digital natives, de ces jeunes qui seraient complètement finalement coupés aussi du monde réel, sous prétexte qu'ils sont face à des écrans. Les adolescents que j'ai rencontrés, ils sont quand même plus de 200 à avoir été rencontrés de manière qualitative, collège et lycée, expliquent tous le plaisir aussi qu'ils ont à avoir des univers sociaux et personnels augmentés grâce à leurs pratiques numériques. Ils racontent tous aussi à quel point il y a une régulation qui doit s'opérer, ils en ont conscience. Plusieurs racontent d'ailleurs en riant un petit peu, parce qu'ils savent aussi que ça fait partie de nos propres addictions, raconte la difficulté à lâcher son téléphone avant d'aller dormir, raconte aussi la prégnance de leur présence sur Facebook. Et là, le rôle des parents est essentiel. Et je parle des parents en premier, parce que c'est d'ailleurs eux que les enfants citent en premier. Les parents ne les laissent pas seuls non plus face aux écrans. Et d'ailleurs, quand un enseignant fait aussi une séance pédagogique en exploitant le numérique, c'est pas le cirque, c'est pas un hocher qu'on agite devant un élève. On est dans un scénario pédagogique.
Si tout se passe bien. Le mot de la fin avec vous, Eunice Mangado. Vous me disiez, poser la question des usages du numérique dans l'éducation, c'est aussi reposer la question du rôle de l'école.
Oui, parce que j'ai l'impression que la façon dont le débat se pose là, on en revient presque au débat, est-ce que l'école c'est instruction ou éducation? Et à partir du moment, si on pense que le rôle de l'école c'est de préparer en fait des enfants, c'est-à-dire futurs citoyens à vivre, eh bien, par exemple, je reciterai juste le fait qu'il y a aujourd'hui un tiers des annonces d'emploi qui ne sont pas que sur le numérique, qui ne sont plus en papier, mais je voudrais dire aussi que, par exemple, il y a une large digitalisation de tous les usages numériques aujourd'hui, s'inscrire sur Pôle emploi, remplir sa feuille d'impôt, etc. Tout ça va
être... On espère d'autres choses aussi dans la vie des jeunes, mais voilà, oui, c'est
donc
important.
Du coup, à partir de là, eh ben, il me semble qu'il y a des inégalités très fortes et que c'est aussi, bien sûr, le rôle, la responsabilité. À l'inverse, si l'école ne faisait rien, ce serait pour le coup une très lourde responsabilité.
Merci beaucoup, merci à tous. Les références des ouvrages cités seront sur le site de France Culture à la page de Rue des Écoles. On passe au dernier sujet et c'est pas totalement déconnecté de ce dont on vient de parler. On va parler du sommeil.
Bonsoir. Alors comme ça, tu as du mal à t'endormir? Eh bien, sois le bienvenu.
Vos paupières sont lourdes, ou en tout cas il faudrait qu'elles le soient, à l'heure de se coucher, car nous ne dormons pas assez en France, nous les adultes, mais aussi les enfants, les adolescents. C'est un véritable problème de santé publique, c'est ce qu'on pouvait lire dans un rapport de Terra Nova, le think tank, rapport publié au mois d'avril dernier, et qu'on a pu lire dans une tribune de Libération publiée cette semaine. Alors le rapport, je ne l'avais pas vu, la tribune, je l'ai lu, du coup après j'ai lu le rapport et je vous ai appelé. Jean-Pierre Jordanella, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin. Pourquoi le sommeil des adultes, mais aussi des enfants, est-il aujourd'hui un problème de santé publique?
Le sommeil intéresse tout le monde. C'est un déterminant de santé, aussi bien que l'alimentation ou l'activité physique. Donc, je ne pose pas la question de savoir pourquoi l'alimentation est un problème de santé publique. Et l'activité physique aussi. Et c'est le troisième déterminant, c'est le troisième pied du tabouret de la santé, si vous voulez. S'il y en a un coupe un, ou s'il y en a un qui est plus long que les autres, eh bien, on voit bien qu'on déséquilibre l'ensemble. Il y a même, d'ailleurs, un cercle vertueux entre ces trois-là, dans le sens positif comme dans le sens négatif. Le sommeil n'est pas réductible, Louise. Chacun a le sien, génétiquement parlant. On est un court dormeur, un long dormeur. Mais c'est en aucun cas une variable d'ajustement sur les 24 heures par rapport à nos activités diurnes et aujourd'hui malheureusement prolongées parce que la journée se prolonge indéfiniment. Y compris pour les enfants, y compris pour les adolescents, y compris à cause des écrans et à cause des tablettes. Et je me suis retenu d'intervenir tout à l'heure parce que autant je trouve très bien l'outil numérique et l'emploi raisonné, formidablement formateur et progressiste d'un outil, autant je déplore ce qui se passe. Parce que les mêmes enseignants que je rencontre tous les jours me disent « Moi, j'en ai assez de voir des gens dormir sur leur bureau, quelle que soit la matière que je leur enseigne. J'en ai assez d'avoir des enfants qui baillent, qui décrochent, parce que l'échec scolaire, c'est pas seulement un problème de connaissance, c'est aussi un problème de compétence, de capacité, d'acquisition des habiletés. » Et quand vous avez des gens qui sont loin de ce monde-là, qu'ils soient numériques, écrits ou sonores, ce que vous voulez, eh bien, ça ne s'imprime pas. Il faut que vous sachiez...
Un enfant fatigué apprend mal.
Exactement. On a tous fait des études, on a tous passé des nuits avant les examens. On sait très bien que cette mémoire-là, elle n'est pas durable. Que si le sommeil n'est pas passé par-dessus un temps suffisamment long, eh bien, rien ne s'imprimera durablement. C'est une des causes les plus marquantes des échecs scolaires. C'est la plus grave chose qui puisse arriver aux catégories sociales les plus défavorisées. Parce qu'à tous les handicaps possibles et imaginables qu'ils peuvent avoir, économiques, environnementaux, logements, culture parentale ou aculture parentale ou inculture tout court, eh bien va s'ajouter le déficit de santé que représente le manque de sommeil. Alors, je trouve bien, parce que je travaille avec des enfants obèses, vous savez, dans un hôpital pédiatrique. Ils ont entre 10 et 14 ans. Quand je leur demande à quelle heure ils se couchent, c'est pas à 10 heures, c'est pas à 11 heures, c'est pas à minuit. C'est à 2 ou 3 heures du matin. Et quand je leur demande ce qu'ils regardent, c'est pas Wikipédia. C'est les feuilletons, c'est les clips, c'est les chats. Et leur sommeil est réduit à quelques heures par nuit. Évidemment, leur formidable rebond de capacité physique leur permet le matin d'être... Ils me disent, mais nous, on est en forme. En forme de quoi? Je me le demande bien, parce que vous savez bien que les premières heures de la matinée, je m'adresse aux gens qui sont dans le studio et qui savent enseigner, ne sont pas performants. Les heures les plus performantes, c'est en fin de matinée, à partir de 15 heures. Regardez ce qui se passe quand les enfants n'ont pas assez dormi, pour parler d'eux, ou les adolescents qui accumulent des dettes chroniques de sommeil, dont je veux dire ici, pour une fois et pour toutes, qu'elles ne sont pas récupérables par les rebonds du week-end. On ne récupère pas le sommeil qu'on a perdu
avec
parce que celui du matin n'est pas le même. Il n'a pas les mêmes composantes, la même profondeur.
Mais docteur, le sommeil, c'est l'intimité oui. de sa chambre à coucher, même l'intimité par rapport à ses parents, la porte est fermée, on est seul, c'est difficile de forcer quelqu'un à dormir, c'est même difficile de se forcer soi-même à dormir. Donc en quoi est-ce un problème de santé publique? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors, c'est très gracieux cette histoire d'intimité. Personne ne nie que quand vous êtes dans votre lit, vous êtes dans une intimité parfaite. Ce que souligne le rapport, c'est que la société est entrée dans votre vie de façon brutale et permanente. Et vous faites penser à cette phrase qui est citée dans le rapport. S'agissant par exemple de la ville de Paris qui présente la possibilité d'avoir 360 manifestations par nuit. Et à la question de savoir si on pouvait dormir à Paris, la réponse de Bertrand Delanoë, que je respecte et que je salue, qui disait « mais au fait, si vous voulez dormir, il faut habiter à Rodez ». Donc, il ne faut pas me raconter...
Mais c'est peut-être mieux.
Il ne faut pas me raconter d'un côté, pardon d'être un petit peu comme ça, vif, mais c'est cité dans le rapport, donc je n'ai pas de difficulté avec ça, que c'est de l'intimité, sans imaginer que cette intimité, comme... par d'autres voies également, est éminemment comprimé par des déterminants sociaux.
Il y a une société du spectacle, une société de l'entertainment, une société de la communication, et par-dessus, il y a des responsables politiques, et pas forcément l'ancien maire de Paris en particulier, mais des responsables politiques qui encouragent cette hyperactivité.
Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, vous avez, sans aller chercher les politiques, il y a beaucoup de cadres qui, quand ils rentrent chez eux, ont encore 400 mails à traiter. J'en connais et j'en vois tous les jours. Alors on dit c'est pas normal, mais c'est quand même comme ça que ça se passe. Pourquoi je vous dis ça? Parce que chacun ayant son sommeil, cette quantité de sommeil, elle n'est pas réductible à rien. Vous savez, on peut pas vivre plus de quelques jours sans dormir absolument. Parce qu'on pourrait imaginer, ça serait le rêve des économistes. Vous imaginez des gens qui travaillent 24 heures sur 24 sans être jamais fatigués. Sauf qu'au bout d'une dizaine de jours max, et ben, direction la morgue. Donc, c'est pas comme ça qu'on résout ces problèmes-là. En creusant un petit peu le sujet, on se rend compte que sans sommeil, on n'est pas efficace. On a une perte en ligne d'efficacité, de productivité. On dit ça d'efficience, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un rapport économique.
Pour revenir à l'école, les horaires scolaires sont-ils adaptés au sommeil des enfants et surtout des adolescents? On sait que commencer à 8 heures, quand il y a des transports auparavant, c'est tout de même un petit peu tôt.
Tout à fait. Il n'y a pas qu'à cet âge-là. Hein. Je veux dire, on a préconisé aussi que la grande section de maternelle, on puisse encore y faire des siestes. Je connais bien des enseignants qui autorisent dans leur classe un petit quart d'heure de repos pour ces enfants-là et pour qui c'est tout à fait bénéfique. Alors oui, à cause des transports, de l'éloignement, des horaires, de la quantité de programmes, des emplois du temps, aujourd'hui, on commencerait, parce qu'il y a des établissements qui commencent plus tard, un peu tard. C'est une proposition, un peu tôt, et pour nous, on se dit, mais est-ce qu'on peut commencer un peu plus tard? Pourquoi? Parce que quand on est obligé de réveiller les enfants, on n'est jamais sûr qu'on les réveille au bon moment. Si on les réveille à la fin d'un cycle, qui est tout à fait fini, ils sont tout à fait bien, si on les réveille alors que le cycle du sommeil ne s'est pas achevé, par exemple en sommeil profond, et ben vous réveillez quelqu'un qui va se retrouver pendant des heures, pardon de l'expression, dans la semoule. Alors c'est très intéressant, c'est très intéressant de dire on va reculer d'une heure, j'y mets deux petites réserves. La première, est-ce que c'est possible, dans tous les établissements, de reculer l'heure? Parce que si on dit, oui, vous pouvez rentrer à 9h, mais que les parents ne peuvent pas faire autre chose que les amener à la garderie à 8h, le bénéfice est nul. Le deuxième, est-ce que cette heure prétendue de sommeil ne sera pas un prétexte pour se coucher plus tard?
Et oui.
Auquel cas, la durée totale du sommeil ne sera pas améliorée. Et je suis très content de votre question. C'est donc vers, de nouveau, l'éducation des parents. Combien mon enfant a-t-il besoin d'heures de sommeil? Comment je m'organise pour les lui donner entièrement? Comment je fais en sorte?
Alors, quelques conseils, peut-être, c'est pas très France Culture, mais c'est tout de même pas mal d'en donner, docteur Giordanella. Comment on fait? Qu'est-ce qui fonctionne pour faire dormir son enfant, son adolescent, plus tôt?
Comment on fait? Il faut d'abord savoir combien de temps il a besoin de dormir. Si vous avez un enfant qui a besoin de dormir 10 heures et qui doit être réveillé à 7 heures du matin, ça veut dire qu'à 9 heures du soir, il est couché endormi. Parce que c'est pas le tout d'aller dans sa chambre. Vous allez dans la chambre et puis vous continuez, là, comme les ados dont je parlais tout à l'heure, à regarder vos séries préférées ou à chatter jusqu'à 3 heures du matin. Est-ce que chacun sait ici et ailleurs de combien d'heures de sommeil j'ai besoin réellement ?
Plus.
Exactement. Et comment je m'organise ? Moi, puisque vous parliez d'intimité. Parce que voilà, d'un coup, que nous, il faudrait qu'on intervienne de l'extérieur en disant à 8h30, là, tout le monde au lit, dormez, bonnes gens, etc. C'est pas le rôle de la médecine, ça. C'est de dire, attention, vous êtes quelqu'un qui a besoin de sommeil, sans quoi vous êtes pas bien, vous manquez d'efficacité et d'efficience, alors organisez-vous pour vous coucher à l'heure où le train du sommeil va passer, parce que si vous le laissez passer, c'est comme l'autobus, et ben vous attendez 1h30 que l'autre revienne, et 7h30, vous la rattraperez pas. Le matin, puisque de toute façon, vous êtes obligé de vous lever. Et dans ces conditions, c'est une organisation intime, pour le coup, domestique, des temps de chacun. Quand vous avez des enfants d'âge différent, c'est encore une autre musique. Il y en a un qui a 5 ans, il y en a un qui a 12 ans, et il y en a un qui en a 16. Est-ce que chacun a sa chambre ? Je ne suis pas sûr. Mais à supposer qu'il ne l'ait pas tous, comment on s'organise ? C'est aussi une organisation interne. Notre souci, c'est de dire, attention, votre enfant est fatigué, il va avoir des difficultés scolaires. On sait bien hein, ce que ça donne. Des redoublements, des échecs, la lecture très difficile, l'attention pendant les cours, la compréhension, la capacité de mémorisation. Tout ça est plombé par le manque de sommeil. Nous, notre devoir, c'est de signaler ce que nous voyons. C'est de dire, attention, l'obésité est extrêmement liée à l'absence de sommeil. Attention, les troubles de la mémoire, l'hyperexcitabilité, l'irritabilité, l'indifférence au cours, les troubles de l'immunité sont liés aussi à un manque de sommeil. Attention, après ça, une fois que je vous ai dit ce qu'il fallait faire, je ne vais pas rentrer dans votre intimité pour le faire à votre place.
Voilà, chers auditeurs, il vous reste quelques heures avant de dormir. J'en profite pour vous souhaiter une excellente soirée sur France Culture. Je remercie toute l'équipe de Rue des Écoles Somanina à la réalisation. Laurent Genepin, attaché de production, à la technique aujourd'hui, Alexandre Dang et Sandrine Ortuno à Bordeaux. N'oubliez pas le podcast, n'oubliez pas le hashtag RDE sur Twitter. Il me reste à vous dire que la semaine prochaine, nous parlerons de la dévaluation des diplômes à l'université. Excellente soirée à tous.